1 Jean 4, versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Je vous invite à la prière d'abord. Merci. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Nous voulons te remercier que tu nous parles par elle. Nous voulons te demander ce matin de nous donner des cœurs qui sont ouverts et doux, Seigneur, pour que nous puissions t'entendre et aussi mettre en pratique cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment choisir une église? Alors, c'est une question que pas mal de gens, qui sont peut-être nouvellement arrivés dans cette église, ont dû se poser récemment. Comment choisir une nouvelle église? Peut-être un jour, vous alliez être muté ailleurs, en France, ou plus loin encore, et vous aurez à choisir une église. Comment faire? Quels sont vos critères? Est-ce la qualité de l'enseignement? Est-ce que c'est la musique, la louange? Est-ce la proximité à votre maison? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes de votre âge? Est-ce que l'école du dimanche est bonne? L'accueil, l'amour fraternel, le zèle pour l'évangélisation? Je pense qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Comment les départager? Comment voir clair? Qu'est-ce qui relève de l'essentiel? Alors, dans cette épître, dans l'épître de 1 Jean, Jean n'écrit pas à des gens qui cherchent une nouvelle église, mais ce sont des gens qui sont inquiétés. Il veut savoir s'ils sont restés dans la bonne église, s'ils sont restés dans la bonne foi, s'ils ne valaient pas mieux aller ailleurs, et en particulier avec ces faux docteurs qui troublent les gens autour d'eux. Ces gens-là avaient prôné, on l'a vu, donc au fil des semaines, avaient prôné une mauvaise conception, de mauvaise compréhension de la personne de Jésus, de son œuvre. Et Jean veut les rassurer que ce qu'il enseigne lui, ce que les apôtres ont enseigné, c'est la foi orthodoxe, c'est l'enseignement de Jésus. C'est eux les témoins oculaires de Jésus. Et que les gens qui lisent cette lettre doivent s'accrocher à leur enseignement. Parce que par cet enseignement, ils connaissent le Christ, ils connaissent le Père. On a vu au fil des semaines que Jean a donné trois tests, trois critères. On a vu le test doctrinal, on l'a vu la semaine dernière encore. Donc, François a parlé de comment tester l'esprit. Donc, l'Église authentique confesse que Jésus est venu dans la chair, que Dieu s'est fait homme. Il y avait aussi un test de l'obéissance. Le chrétien authentique, l'Église authentique, met en pratique la parole. Il y avait aussi un test, le test de l'amour fraternel, donc ce test affectif. Une Église qui s'accroche à l'enseignement des apôtres est une Église qui aime ses frères et sœurs. Et Jean avait commencé de parler de l'amour fraternel au chapitre 2. On a lu que celui qui marche dans la lumière aime son frère, il ne le déteste pas. Et plus loin, au chapitre 3, on a vu que Jean nous a donné deux exemples. L'exemple de Caïn, qui a tué son frère, et l'exemple de Jésus, qui s'est fait tuer pour ses frères. Et ce matin, encore, Jean veut nous parler de l'amour fraternel. C'est comme ça qu'il procède, donc en spirale, comme cet escalier en colimaçon. Il annonce un thème, il passe à autre chose, et ensuite, quelques versets plus tard, il revient au premier thème. Il ajoute quelque chose, il approfondit ce qu'il a déjà dit. Et dans le passage de ce matin, on voit que Jean veut intégrer deux thèmes, deux tests. Il est venu parler de la foi, donc ce test doctrinal. Il est venu parler aussi de l'amour fraternel, donc il intègre ces deux tests. Et il nous dit que finalement, ces deux tests sont indissociables. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Alors, de manière technique, c'est un peu technique, mais on pourrait dire que l'orthodoxie, le fait de croire vraiment la vérité, de se tenir dans la vérité, ne va jamais sans l'orthopraxie. Donc, c'est un peu compliqué, mais le fait de vivre de manière, de pratiquer sa foi, de vivre correctement, les deux doivent aller toujours ensemble. Et c'est ça ce qu'il veut nous montrer ce matin. Et on a vu que le but de cette lettre, c'est de rassurer les chrétiens. Et donc, l'apôtre est venu rassurer ce matin. Il est venu montrer que quand ces deux choses vont ensemble, on voit qu'il y a quelque chose d'authentique qui est en train de se passer. Et la doctrine des apôtres crée cette bonne conduite. Alors, nous allons aborder ce passage en deux parties. Donc, on va voir premièrement un amour qui inspire. Et ensuite, un amour qui transforme. Donc d'abord, un amour qui inspire. Alors, les versets 7 et 8, donc je vous invite à retrouver peut-être ce passage dans vos versions de la Bible. Les versets 7 et 8 introduisent bien cette section de la lettre. Et en quelque sorte, ils résument tout ce que Jean va dire dans cette partie. Et on voit que l'application est très claire. Il n'y aura pas de surprise ce matin, il n'y a pas d'énigme à résoudre, pas comme la semaine dernière. Jean nous appelle à un amour fraternel authentique. C'est ça l'application. Donc ce n'est pas la physique quantique, mais cette connaissance, cet amour est fondé sur une science éblouissante. Donc le fait qu'il est fondé sur Dieu lui-même. Alors, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. On a déjà vu donc, au chapitre 2 que Jean a déjà dit que Dieu est lumière, qu'il est moralement propre, qu'il est pur, qu'il n'est pas ténébreux. Il est saint, il ne supporte pas le mal. Et puisque Dieu est lumière, Jean nous a rappelé que le chrétien doit marcher dans la lumière. Il va de même pour l'amour. Dieu est amour, donc le chrétien doit marcher dans l'amour. Même si on a cité Jean 3,16 ce matin, et Stanislas l'a bien cité, je pense que ceci est le verset le plus célèbre de la Bible. Dieu est amour. Beaucoup de gens citent ce verset. Bien sûr, ils ne savent pas que ce verset vient de la Bible. Encore moins de cette épître de Jean. Ils ne citent pas le Coran en le disant. Le Coran ne parle pas de Allah dans ces termes-là. Sans savoir, ils citent la Bible. Bien sûr, ils le citent parfois très benoîtement dans un esprit de tolérance. Oui, Dieu est amour, tout se vaut, toutes les religions se valent, Dieu est amour. Et en quelque sorte, en le disant, les gens se rassurent. C'est beaucoup plus rassurant que l'idée que Dieu est lumière, qu'il est moralement pur, qu'il est autre, qu'il est propre. Le poète romantique Heinrich Heine a dit « Le bon Dieu me pardonnera, c'est son métier. » Et c'est vrai que si Dieu est amour, parce que ça nous convient pas mal comme ça, finalement, ce Dieu qui est clément, qui est amour, qui, de toute façon, me pardonnera. Mais pour d'autres, le fait que Dieu est amour pose problème. Si Dieu est amour, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi son amour n'empêche pas toute cette haine, cette souffrance? Et le philosophe Voltaire l'a exprimé ainsi. Pourquoi existe-t-il tant de mal? Tout étant formé par Dieu que tous les théistes se sont accordés à nommer bon. On peut discuter de sa manière de le dire, mais la citation nous montre le problème. Pour les uns, l'amour de Dieu, le fait que Dieu est amour, est une façon de ne pas regarder leur cœur en face, leur méchanceté en face. Et pour d'autres, l'amour de Dieu, le fait que Dieu est amour, les laisse perplexes. Mais comment est-ce possible, étant donné ce qu'on voit dans le monde? Alors, comment ce passage voit les choses? Comment Jean comprend l'amour de Dieu? Donc, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alors l'amour de Dieu ne s'exprime pas dans l'abstrait, Dieu s'est manifesté. Donc Jean lui rappelle le cœur de la foi. On a vu donc au début de la lettre qu'il est un témoin oculaire de la vie de Jésus. Dieu le Fils est venu dans la chair. C'est Dieu le Père qui l'a envoyé. Et cela veut dire que l'amour de Dieu ne s'isole pas. Il va vers l'autre. Il envoie son Fils. Il visite l'humanité. Il rejoint l'humanité là où elle est. Il va à sa rencontre. C'est vrai qu'à Noël, Noël semble bien lointain maintenant, mais on se souvient de la crèche, de l'étable, de toute cette poussière, de cette saleté. Et là, Dieu, le Fils, s'est fait esclave. Il s'est fait serviteur. Il s'est abaissé pour nous servir. C'est ça ce que l'amour fait. Il ne cherche pas à être bien vu, mais à servir discrètement. Alors, le Père a envoyé le Fils pour donner la vie, afin que nous vivions par lui. Donc Jésus, il est venu comme un sauveteur. Dieu n'a pas fait semblant que tout allait bien. Il n'a pas fermé ses yeux sur la douleur des hommes. Il n'a pas positivé malgré les circonstances. Son amour s'est manifesté dans l'histoire il y a 2000 ans de manière concrète en chair et en os. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Son amour n'est pas dépendant de notre amour. C'est lui, c'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu n'a pas attendu jusqu'à ce que nous ayons montré de l'intérêt pour lui. L'amour est comme ça. Il se donne sans penser à un salaire quelconque. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc là, Jean commence à nous parler de la croix. Dieu a envoyé son Fils expressément dans le but de mourir, d'être offert en sacrifice. Ah. Donc, normalement, il y avait une image là, qui n'est plus là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un film que j'ai vu récemment, qui s'appelle Grand Torino. C'est le dernier film de Clint Eastwood. Il est toujours à l'affiche au cinéma, donc si ça vous intéresse, donc, allez le voir. Et dans ce film, Grand Torino, Eastwood joue le rôle d'un vieil homme grincheux qui s'appelle Kowalski, donc d'origine polonaise. Et c'est un homme qui, c'est un peu grincheux, et donc il n'aime pas vraiment ses voisins. Mais au fil des années, il devient quand même l'ami de ses voisins. Donc c'est une famille asiatique. Et cette famille a des problèmes parce qu'il y a des gangs locaux qui essayent d'enrôler leur fils de force dans un gang. Et Kowalski, ce vétéran de la guerre de Corée, devient le protecteur de cette famille et de tout le quartier. Un jour, cette bande de voyous commet un crime horrible. Et le fils veut venger sa famille, venger la famille. C'est une question d'honneur. Mais Kowalski, il sait que si le fils fait ça, il risque simplement d'enchaîner une autre vague de violence. Il va lui-même devenir une victime de la vengeance. Ou pire, il va être condamné par la justice. Donc cet homme, Kowalski, se sachant gravement malade, il va mourir de toute manière dans quelques semaines. Il décide de se rendre à la maison de ses malfaiteurs. Il y va sans armes. Mais il a bien alerté la police avant d'y aller. Et cette bande le voit. Et pensant qu'il est venu pour venger cette crime, ses malfaiteurs l'abattent, et au vu et au su de la police. Et c'est ainsi que la police les attrape en flagrant délit. Et cet homme, Kowalski, avait eu prévu. En se sacrifiant, il s'est débarrassé le quartier de ses malfaiteurs, et il a sauvé le fils. Alors bien sûr, ce film, cet exemple, n'a rien à voir en quelque sorte, ou n'a pas la même portée que ce que Jésus a fait à la croix. C'est guère comparable, même si les thèmes sont bien là. Quelqu'un qui se sacrifie, qui se donne à la place de quelqu'un d'autre. Dieu a donné son fils comme une victime, un sacrifice expiatoire. Un sacrifice expiatoire, c'est un sacrifice qui a pour but, pour vocation d'apaiser Dieu. Tout le monde veut un Dieu d'amour. Mais tout le monde ne veut pas forcément de son amour. Pourquoi? Parce que son amour nous montre qui nous sommes. Son amour nous montre, en quelque sorte, que nous n'avons pas aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Loin s'en faut. Les hommes et les femmes sont en rupture, en révolte contre Dieu, loin de lui. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour restaurer cette relation, pour nous donner la paix. Non pas en niant notre faute, non pas en faisant semblant que nous n'avions pas péché contre lui, ou que notre faute n'était pas grave, mais il a envoyé son Fils pour prendre sur lui notre faute, notre peine, à notre place. Lorsque Jean nous parle d'une victime expiatoire, il a sûrement en tête, à l'esprit, le serviteur souffrant d'Ésaïe, ce passage de l'Ancien Testament, où ce serviteur se donne pour sauver un grand nombre. Je cite, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Dieu nous a aimés à ce point-là. Dieu est un Dieu d'amour. Alors, je ne prétends pas que ce passage répond pleinement à la question de Voltaire. Mais quand même, Dieu n'est pas aveugle à nos souffrances, à nos peines, Au contraire, il envoie son Fils, et son Fils a subi la souffrance, il a subi notre peine. Il a enduré la séparation avec son Père, cet isolement, cet abandon de son Père. Il a fait à notre place, pour que nous n'ayons pas à subir cet abandon nous-mêmes. L'amour de Dieu s'acharne contre le mal. Il n'est pas l'ami du mal. Mais quand il s'acharne contre le mal, il passe par la souffrance. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu qui s'est manifesté de manière concrète, historique, dans la vie de Jésus-Christ, crée une dette chez tous ceux qui le reçoivent. Alors, on le voit bien dans verset 11. Jean ne dit pas, alors Dieu vous a aimé, aimez Dieu en retour. Il le dit peut-être ailleurs, mais pas ici. Il nous dit que cet amour, la dette que cet amour crée chez nous, nous donne un devoir d'aimer nos frères et sœurs. Donc son amour est un modèle, c'est un modèle qui nous inspire, c'est un modèle qui informe notre amour, notre manière de nous comporter du jour le jour. Le Fils venu dans la chair, c'est-à-dire la bonne doctrine, est au cœur de la bonne conduite, l'amour fraternel. Notre devoir, notre dette s'exprime lorsque nous imitons cet amour, lorsque nous allons vers nos frères et sœurs, quand on les aime en premier, avant, lorsqu'on prend l'initiative, peut-être même lorsqu'ils ne sont pas très aimables, peut-être même quand ils sont parfois un peu grincheux. C'est à nous, comme à l'instar du Père, de faire le premier pas, d'aller pardonner, de les rencontrer dans leurs besoins, quel que soit le besoin, d'aller à leur rencontre, de nous abaisser pour servir, sachant que nous n'allons pas forcément recevoir grand-chose en retour. C'est notre devoir, c'est notre dette. Alors, le temps passe, donc je vais passer à la deuxième partie. Mais juste avant de faire ça, j'aimerais vous rappeler que dans quelques semaines, on a un événement. Donc, c'est le mercredi avant Pâques. On va parler, on va nous pencher un peu plus sur l'amour divin, comment Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. On va peut-être essayer de répondre à quelques-unes de ces questions. Donc, un petit peu de pub pour cet événement. Pensez à venir, ou peut-être vous avez des amis ou des collègues, des membres de la famille qui se posent ce genre de questions. Pourquoi ou comment un Dieu qui est amour peut nous aimer, étant donné qu'il y a autant de souffrances dans le monde? Alors, la deuxième partie. Un amour qui transforme. Alors, la fin du verset 12 nous dit « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. » Et son amour est parfait en nous. On l'a dit, l'amour de Dieu n'est pas abstrait. Il s'est manifesté en Jésus-Christ, le serviteur souffrant, la victime expiatoire. Et cet amour nous amène, nous conduit à connaître Dieu, à demeurer en lui, d'avoir une relation personnelle avec lui. Alors, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. L'amour fraternel n'est pas la condition de connaître la présence de Dieu dans nos vies, mais c'est le fruit. L'amour fraternel atteste que Dieu est bien là, qu'il est à l'œuvre en nous, que son esprit est présent dans nos vies, qu'il est en train de nous changer. Jetez un coup d'œil sur le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Alors, comment l'Esprit se manifeste-t-il dans nos vies? Il semble y avoir trois étapes dans ce passage. Jean nous parle de la foi en Jésus-Christ, venu dans la chair. Ensuite, une confiance, une assurance devant Dieu, une absence de crainte. Et finalement, encore une fois, l'amour fraternel. Donc, le verset 15. C'est par l'Esprit, l'Esprit qui est en notre vie, que nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu. On a besoin de l'Esprit pour voir clair, pour voir ce que Dieu a fait qui est Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est l'évangile qui nous montre que Dieu est amour, qu'il est comme ça, qu'il a prouvé à la croix, et nous y avons cru. Nous avons mis notre confiance en cette victime expiatoire, en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement l'appréciation intellectuelle, artistique de quelque chose de bien, de beau, mais c'est quelque chose qui saisit nos tripes, c'est l'esprit qui l'applique à nos cœurs. Il nous entraîne dans une relation avec Dieu qui nous permet de le connaître. Et son amour est rendu parfait en nous. Comment ? Verset 17. L'Esprit nous assure que nous sommes dans le monde tel que Jésus était dans le monde, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu, des fils et des filles qui sont aimés de Dieu, que Dieu aimera toujours. Et l'Esprit nous donne une confiance, une assurance devant Dieu. Verset 18, comment ? Il bannit la crainte. Parce que la crainte suppose un jugement. Mais ce jugement est déjà tombé sur Jésus, Dieu venu dans la chair. On a vu, Jésus a pris une nature humaine pour porter nos péchés, pour prendre notre peine à notre place, pour rendre Dieu propice à notre égard. Et quand la peine est déjà expiée, il n'y a pas de raison de craindre un jugement quelconque. Le juge a déjà parlé. La faute a déjà été expiée. C'est la victime expiatoire qui l'a expiée. Isaïe a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Esprit nous dit, communique à nos cœurs que nous avons cette paix avec Dieu, que le châtiment est déjà tombé sur Jésus. Que Dieu ne changera jamais d'avis, qu'il nous accepte, que nous puissions rien faire de plus pour être plus acceptables aux yeux de Dieu, plus aimés par Dieu. Et lorsque nous mettons notre foi en lui, lorsque nous acceptons son amour, l'Esprit l'applique à nos cœurs pour que nous sachions vraiment, au tréfonds de nos cœurs, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et le troisième chaînon, c'est celui de l'amour fraternel, verset 19. Pour nous, nous nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Encore une fois, on voit cette dette. Dieu nous a aimés en premier. Et notre dette, le créancier en quelque sorte de cette dette s'exprime dans l'amour fraternel, cet amour que nous devons les uns aux autres. Verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas ? En quelque sorte, à la fin du passage, Jean nous donne un test de réalité. La bonne doctrine, cette confession de foi orthodoxe où on met les points sur les i, pas cette confession n'a que de valeur dans la mesure où on la met en pratique, où on se donne à l'amour fraternel, à l'instar du Père qui a donné son Fils, à l'instar du Fils qui s'est donné pour nous. Dieu nous appelle à aimer ceux qui portent son image, l'image de son Fils, de s'inspirer de son amour, d'aimer nos frères et sœurs avant qu'ils nous aiment, d'aller à leur rencontre, de les rencontrer dans le besoin, d'être prompt à les pardonner, d'être lent à la colère. Cela vaut également pour nos frères et sœurs qui sont également nos frères et sœurs de sang ou peut-être nos époux. Parfois, on oublie qu'ils sont premièrement des frères et sœurs en Christ. Alors, si je retourne à la case de départ, comment choisir une église ? Ou, comme pour les premiers lecteurs de cette lettre, comment savoir quel enseignement suivre, quels enseignants suivre ? Il faut choisir l'orthodoxie, mais l'orthodoxie qui produit cette orthopraxie, c'est-à-dire une bonne doctrine qui s'appuie sur le fait que Jésus est venu dans la chair, qu'il est notre victime expiatoire, un enseignement qui met ça au centre. Jésus est Dieu, et Jésus qui a pris notre place, notre peine à notre place. Et un enseignement qui produit des fruits qui sont dignes de cet enseignement. C'est-à-dire l'amour fraternel, un amour qui se donne et qui va à l'encontre de l'autre dans son besoin. Prions. Père Céleste, nous voulons te louer pour ton amour. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de cet amour, mais tu nous as aimés lorsque nous étions encore tes ennemis, lorsque nous étions encore hostiles à toi, à ton Fils, à ton Évangile. Merci de ce que, dans ta miséricorde, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné l'opportunité de l'entendre. Et merci d'avoir adouci nos cœurs et de nous avoir donné cette foi qui s'accroche à Jésus-Christ, s'accroche à son sacrifice. Merci pour cet amour inouï qui nous permet de t'appeler Père et de nous savoir pardonner. Merci pour cette assurance, cette confiance que nous avons devant toi, cette confiance de savoir que nous sommes plus aimés que nous le méritons et nous ne pouvons pas devenir plus aimés par ce que nous faisons, par nos actes, par nos œuvres, mais tout est accompli en Jésus. Merci pour cet amour. Et Père, nous voulons te demander de nous aider cette semaine à vivre cet amour, à le vivre en aimant nos frères et sœurs. Père, tu sais combien parfois c'est difficile de faire ça, que les circonstances, parfois dures de la vie, nous éloignent de cet idéal qui est pourtant une réalité ferme. Seigneur, nous te demandons de nous aider cette semaine à marcher d'une manière digne de toi. Donne-nous d'être inspirés par cet amour et de le mettre en pratique. Nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
Merci Trevor. Donc, avant de terminer notre culte,